J'oublie le générique. Je mets le générique quand même. Non, c'est pas ça. C'est ça. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce Thanksgiving Show, une émission spéciale cette semaine. On réunit à la fois l'émission du mardi et l'émission du jeudi pour en faire qu'une, parce que semaine courte oblige à cause du Thanksgiving qui se passera donc demain avec trois matchs donc à la clé. On va parler donc comme d'habitude, alors on va faire un peu l'inverse, on va commencer par les concours, les ligues FB, faire un petit tour sur le trophée FB notamment avec le listing de tous les managers qui sont en tête des différentes divisions. Et puis après, on abordera les choses plus sérieuses, entre guillemets, dans le détail des joueurs, de la review de la week qui vient de se passer, avec notamment différents sujets comme l'attaque des Jacks, l'attaque des Texans, les Rams. Pas mal de flops et puis on terminera par un preview un peu spécifique d'abord juste des matchs de Thanksgiving et puis on fera le reste en émission lors du warm-up. Et pour ce faire, je suis accompagné de Lucho. Bonsoir Lucho.
Salut Alex, salut tout le monde.
Comment vas-tu?
Bah nickel, tout va bien.
Et le troisième larron. Bonsoir.
Jour de fête, les amis, jour de fête.
Il a sorti la towelle.
T'en fais collection? T'en as combien? T'en as beaucoup? Non? Tu les dédicaces? T'en as qu'une? Ok.
J'en ai qu'une.
Tu l'as récupéré lors de ton dernier voyage?
Exactement, ouais. À l'aéroport, je me dis, bon, je vais quand même me prendre un truc, histoire de dire que j'y étais. Mais bon.
Tu l'as agité, là, cette semaine?
Ah, je l'ai agité pendant. Là, j'ai mal au bras, j'ai une tendinite. Parce qu'il s'est passé des choses, quoi.
Ah, d'accord.
Là, c'était plus pour s'éponger le front, moi, je pense.
Non, il s'est passé beaucoup plus de choses. Non, mais ce n'est pas le résultat en soi, c'est le licenciement. C'est pas...
Oui, c'est
un peu méchant. Ça... J'ai fêté licenciement à quelqu'un, ce n'est pas très gentil, mais bon, c'est compris, quoi.
on en parlera tout à l'heure, si tu veux. On va commencer par les trophées FB, les ligues FB, les concours, tout ce que Fantasy Ballers organise pour ses amis managers. Et notamment, Lucho, tu vas nous parler, donc comme d'habitude, de l'éliminateur, du Survivor.
Ouais, le Survivor avec trois personnes éliminées cette semaine et qui ont misé contre les Jets qui, qui ont gagné. Donc voilà, donc trois éliminés avec grâce à Marc, à l'équipe de Marc, on va dire. En même temps, bon, c'est vrai que je pense que viser les Jets, c'était peut-être la solution la plus facile, mais ça s'est un peu retourné contre eux. Mais il en reste toujours 6, 4
qui ont été éliminés. Les Giants, t'as dit. Giants. Ouais. Ah, il ne va pas dire à des fans des Giants qui sont fans des Jets.
Hein. Mais à coup pas.
Mais voilà, 4. T'as raison, Lucho, c'est la même ville, tu t'en fous.
Oui, de toute façon, c'est une ville de losers, ça, de toute façon. Ils ne gagnent jamais rien là-bas. Donc les Lions, 4 personnes pour les Lions et 2 personnes pour les Texans qui passent à la semaine suivante, week 12. Donc week 12, 6 survivants, pas mal.
C'est pas mal, mais en même temps c'est logique qu'il y ait eu des éliminés sur des matchs sur surprise comme on a eu le week-end dernier. Quoi.
C'est vrai. Je suis même étonné qu'il n'y en ait pas un peu
et
plus.
Puis, ah ouais, ouais. Ils ont assuré la sécurité. Ouais. Quoi. Et puis après, sinon, on a le pick'em.
Le pick'em avec pas énormément de changements. Toujours notre ami Njito qui est premier, si j'ai pas de bêtises. Et c'est quoi, tu vas nous faire voir les pics là. Fais attention.
Ouais, non, c'est surtout que tu sais, ça, j'ai beau préparer. En fait, à chaque fois, il me remet sur cette page-là, automatiquement. Il ne reste pas comme ça,
Mais
voilà.
voilà.
On est
Donc, notre ami Ngito, toujours présent en tête, qui nous fait encore une week à 9 points, donc un petit peu en deçà des poursuivants. Hein. Donc là, il est en train de se faire rejoindre par Mikael 24 et L to the Gonzo, qui sont juste derrière avec 114 points. Et ces trois-là ont creusé quand même un certain écart avec les poursuivants. On a François, notre ami François French Eagles, qui est là en quatrième position. On a Marc qui est là en cinquième position. Sullivan et Thibaut 15 qui sont juste derrière avec 108 points. Donc voilà, dans l'ensemble, les meilleurs résultats, c'était 11 bons résultats, si je dis pas de bêtises, cette semaine.
Oui, c'est ça.
Beaucoup ont fait. Ah,
Pardon, ça va, autant pour moi.
Guiche et 2-9 BTX avec bons résultats.
Oui.
Suit une dizaine de concurrents avec 110. Et après, il y a eu beaucoup, beaucoup de 100 cette semaine, beaucoup de 100 et de 90.
C'est ça. Dont je fais partie.
Exactement.
Ouais, c'est comme ça. Et puis après, tu vas nous parler, donc, comme d'habitude, des
Ouais.
ligues, et notamment celle-ci.
Avec la League of Legends, victoire d'Alex du front office face à Jérôme. Ils en ont parlé hier dans leur podcast. Une très très courte défaite de 0,07 points. Voilà, bravo Alex, bravo à toi. Cyprien qui gagne contre Helio, Marc qui perd encore contre Mehdi. Marc est sur une mauvaise dynamique avec 4 défaites d'affilée. Hugo de Café Crème Sport qui gagne contre Rémi, Zan Sport US qui gagne contre Pascal du Free Agents, et Aptin ici présent qui fait le top score de la semaine avec 183 points , et qui bat Bagadou de TDA. Donc au niveau du classement, on a Mehdi qui fait une très belle remontée et qui rejoint Pascal en tête avec 8 victoires pour 3 défaites. Et Mehdi, il est sur une série de 4 victoires, donc il est en train de remonter la pente. On a Aptin qui est toujours à l'affût, troisième. Et après, on a deux concurrents, Rémi et Hugo, avec 6 victoires chacun, mais qui sont suivis quand même de quatre petits bonhommes avec Cyprien, Bagadou, Alex et Marc qui ont 5 victoires. Donc tout reste jouable, hormis pour Elio, où ça va être probablement très compliqué pour lui de se qualifier au playoff cette année.
Dès qu'il perd, je passe devant, j'ai 200 points de plus.
Ah oui, non, mais t'es bien. Puis
La
c'est vrai que
bagarre.
t'as fait des gros scores hein, cette année. Donc. Ça
Marc, il
joue
m'a.
pour toi.
J'avais confiance en lui.
Après, il peut peut-être revenir, hein, mais là, c'est vrai que 4 défaites d'affilée, ça picote un peu. Niveau trophée FB, dans les top scores, on a du beau monde là cette semaine. On a Timat QLF encore là avec 158 points. Ngito, je commence à en avoir marre de citer son nom, mais il est toujours là avec 156. Notre ami Jérôme du front office avec 150 points cette semaine. Damien, les Stark de Winterfell, avec 149 points, à qui on passe le coucou. Jal7 avec 144, Aurélan avec 144 points aussi. Notre ami Mathieu, qui est là avec 143 points. Boulal avec quasiment 143, et Noctis aussi, suivi de Brundir avec 138 points. Donc voilà, c'est des scores relativement peu élevés par rapport à ce qu'on a déjà vu, mais ça se situe entre 140 et 160 points, qui est plutôt pas mal.
C'est
Personnellement,
clair.
j'en étais loin. Au niveau des pires scores, Vikingator pour la deuxième semaine consécutive en haut du classement avec 54 points, et pourtant il fait ses line-up, je vais vérifier. Mademois avec 70, Senna 76 avec 78 points, Péchou, encore un fromage qui pue avec 79, Macurel 79 aussi. Jex, qui est pourtant en haut du classement, mais qui fait que 40, 83 points cette semaine. Omibouzou avec 83 points. Guilty 777 avec 84 points. OITNB avec 85 points, avec un beau tigrou en photo. Et Exolex avec 89 points.
Attends, c'est la photo de Omibouzou que tu dois mentionner, c'est celle
Ah bah
de
vas-y,
Nick Larson, non?
je te
C'est Nick
laisse.
Larson, non?
Je te laisse en parler. Je suis pas spécialiste de Nick Larson, je suis désolé.
D'accord.
Mais je veux bien
Moi
te croire.
qui cherchais un défaut, je l'ai trouvé. On
Ah
peut
oui.
passer à eux.
Ah oui. Ah bah oui. Bon, tu sais, j'en ai beaucoup. Hein.
Bon, et après les top scores,
Pas de changement. Ouais.
ça change pas nulle
Pas de
part, ni les
changement.
pires scores, je crois que
Non,
ça
non, non,
change pas non
ça
plus.
change pas cette semaine. Toujours le même.
Et puis alors là, tu nous relates donc les leaders de chaque
division. Marc a fait un petit rappel sur Twitter aujourd'hui avec tous les classements de toutes les ligues. Vous pouvez aller checker votre classement et comparer un petit peu le nombre de points, le nombre de victoires avec les autres divisions. C'est cool pour tout le monde d'avoir la vision sur la ligue en général. En division 1, on a toujours Kawan qui est là avec 9 victoires et 2 défaites. Dans les divisions 2A, on a Arkantos qui est là avec 8-3. Division 2B, c'est Spyco 972 avec 9-2. Bab tout premier dans ma division, dans la 2C avec 8-3. On a un certain Aptin en 3, disons 3A avec Wombastic avec 8-3. On a Ticro 95, notre ami Guillaume, All West Patriots, c'est Prince Roi avec 7-4. Division très 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 serrée, la 3B.
C'est la division de la mort.
Je crois que les 8 premiers sont en 2 ou 3 victoires. Ça va être chaud jusqu'à la fin, cette division-là. Sullivan Kitanen W22 avec 8-3 dans la division 3C. Dans la division 3B, on a Grégouze en 9-2. Dans la division 3E, on a Thibaut 15 qui survole sa division avec 10-1. Et dans la division 3F, on a Horizontable 696 avec 9-2. Voilà. Normalement, tout ce beau monde est qualifié.
Il a clinché la semaine dernière.
Lui. Oui, bah là, il y en a plein qui ont. Là, 8-3, 9-2, la plupart sont déjà qualifiés. En 7-4, okay. Il y a encore du travail à faire. Mais je voulais te demander d'ailleurs à petit.
Et globalement, ouais, pardon, vas-y.
Est-ce que tu as lancé des trades un petit peu pour.
Zéro.
Rien du tout.
Zéro. Rien du tout, non. J'étais content. En fait, moi, je suis très fort à la draft et après, je pars un peu en.
C'est pour ça que je te dis ça. Est-ce que tu as voulu assurer un petit peu pour les playoffs, tu vois?
Non, mais bizarrement, juste les waivers, ça m'a suffi. J'ai pas été trop dans les trades, même en général. Hein, je crois que j'ai pas été ici avec toi et je crois que c'est mon seul trade que j'ai fait de l'année. Et encore, on a dû être bloqué dans un wagon du Eurostar.
C'est ça. Vive l'Eurostar. Ça crée des relations, ça crée des liens.
J'en profite donc en parlant manager pour dire bonsoir donc à Pierre 38, Pierrot salut, Nimodo, on a Ekamien, Thibaut et puis donc Pierrot qui parle d'une certaine malédiction. Je ne vois pas de quoi il parle. Je ne sais pas.
Je pense qu'il va falloir qu'on commence à en parler de cette malédiction, mais plus personne ne voudra venir dans l'émission donc.
Mais si. Ou alors comme je ne sais plus qui l'a fait d'ailleurs. Vous pouvez dénoncer la personne qui cartonne dans votre ligue et on l'invite dans ce cas-là. Comme ça, quand il viendra chez nous, bam, et pourrait remonter.
C'est ça. Bizarrement, il y a des noms qui sont apparus assez rapidement. Oui, invitez celui-là.
On vous mettra en bas de l'écran les RIB, soit d'Aptin, soit de Marc, pour le financement de Fantasy Ballers, pour que ça puisse se passer comme ça.
Mais oui, par exemple, Wombastic, il veut pas être vœu. Il vient la semaine prochaine, il est dispo. Envoyez-lui un email.
Ok, très bien, parfait. Alors, sinon, là maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'on a déjà un peu survolé certains sujets là. Et ça a été plutôt, plutôt costaud, encore en termes de blessures et en termes de surprises. Donc, dans les All-Stars, alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas, on a Trevor Lawrence, on a Saquon Barkley, Jalen Warren, on a Calvin Ridley, Tyreek Hill, Tank Dell, George Kittle, Brandon Ayuk, la défense des Giants et Will Lutz. Moi, j'aimerais aborder surtout un point avec vous, messieurs, l'attaque des Jags, parce qu'on a quand même donc Trevor Lawrence et Calvin Ridley qui sont dans les tops. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils sont capables de nourrir tout le monde? Zay Jones vient de revenir et je me dis est-ce qu'ils sont capables de nourrir tout le monde comme font par exemple les Texans, ça on en parlera tout à l'heure. Lucho, qu'est-ce que t'en penses?
En fait, j'ai l'impression que Zay Jones, c'est un peu le porte-bonheur de l'équipe. C'est-à-dire que quand il est là, il gagne. Quand il n'est pas là, c'est plus compliqué. Et pourtant, il n'est pas hyper, hyper efficace. Hein, puisqu'il il a 4 targets, 4 réceptions cette semaine. Donc, c'est pas officiel. Mais après, pour répondre à ta question, s'ils veulent gagner, de toute façon, ils vont devoir nourrir un maximum de personnes. Là, cette semaine, c'était Ridley. Ridley a été hyper efficace. Il a été visé dans tous les endroits du terrain. Il a été visé en red zone alors que je crois qu'il marque 3 yards sur son premier TD. Donc, on voit qu'il a, enfin, voilà, il a été target. On en avait parlé un petit peu, si je n'ai pas de bêtises, la semaine dernière, où on disait que bah, c'était un peu un profil à boom or bust où il peut faire des super matchs comme il peut passer complètement à côté. Là, cette semaine, il était au top. WR1, 27 points. Voilà. Là, il n'y a pas grand chose à dire. Après, Etienne n'a pas été super utilisé. Donc, je pense qu'il y a encore de la réserve. Maintenant, c'est à voir surtout s'ils arrivent à reproduire ce genre de match plus fréquemment. Parce que là, en face, c'est les Titans qui ne sont pas une super équipe, qui ont perdu.
Ben justement.
Qui ont perdu leur safety. Si je n'ai pas de bêtises, c'était le safety. Hein, Bayard, c'était.
Oui, Bayard qui est parti aux Eagles, oui.
Donc voilà, les Titans sont en train de s'écrouler un petit peu. Donc, est-ce que c'est un match référence pour eux? Est-ce que c'est juste parce qu'en face, il n'y avait pas grand-chose? Je pense qu'on aura un peu plus de réponses la semaine prochaine.
Aptine?
Non, pour répondre à ta question, non. Parce qu'au final, on voit que ce n'est pas encore une équipe établie. Dès qu'ils jouent un très gros, ils s'écroulent. Et même en fantasy, je n'arrive pas à me dire que c'est une bonne offense. Je trouve que c'est une équipe beaucoup plus équilibrée, c'est pour ça qu'elle fait qu'elle gagne. Je crois qu'elle est même limite plus portée par la défense que par l'attaque, ce qui est quand même assez. Enfin, c'est quand même très, très, très non Jaguars d'avoir une. Enfin, je dis ça, mais enfin, c'était très fort, c'est quand ils avaient la bonne défense.
Ouais. Mais, sur Coughlin, ouais, sur Coughlin.
Ouais, exactement, ouais. Et en fait, moi, je me dis juste que aujourd'hui, pour moi, un Trevor Lawrence ou même l'attaque en elle-même n'est pas assez mature pour être régulièrement intéressante, et surtout en fantasy. Là, on parle de Ridley. Bonjour, Marc.
Bonjour, Marc.
What's up, guys?
Et tu vois, par exemple, Ridley, on en parlait comme boom or bust, et c'est typique le mec, en gros, qui va. Sûrement, toutes les personnes qui ont starté Ridley ont gagné leur match-up, je pense. Mais après, il va t'en faire perdre 4 d'affilée parce qu'il ne score pas. Et en fait, c'est super difficile. Et ça, en fait, moi, je me tue à le répéter, c'est de trouver une certaine régularité dans les joueurs que tu startes. Et Jacksonville, c'est super difficile de pouvoir trouver ça. Je pensais qu'Engram, c'était le cas. On était en train de dire, Engram, c'est le seul mec sûr de cette équipe, ça fait 3 matchs qu'il fait presque rien, si je ne me trompe pas. Donc ça commence à. Tu vois, au final, c'est dur de croire et de nourrir tout le monde, peut-être pour gagner un match, mais ça, du coup, en fantasy, il n'y a rien qui va ressortir d'intéressant de ça. Mais après, il y a toujours un ou deux mecs qui vont être laissés, alors que toutes les personnes qui ont même un Zay Jones, je pense, qui est startable, tout le monde va starter les 4, les 5 joueurs de Jacksonville, qui sont Lawrence, Etienne, Ridley, Kirk et Engram. Mais il faut s'attendre à être très, très souvent déçu. Quoi.
En soi, la passe, Lawrence n'a pas été oufissime. Il a fait 24 sur 32, il fait 260 yards. C'est pas extraordinaire non plus. Après, son score, il est aussi dû au à la course. Mais sans ça, enfin, c'est un score relativement moyen.
Marc, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Bonsoir Marc là-bas, excuse-moi.
Bonsoir messieurs. Par rapport à quoi? Aux Jags?
Ouais, aux Jags, en fait, ils ne sont pas encore à un stade de pouvoir nourrir tout le monde, parce que même Travis Etienne qui cartonnait, il a fait 2 matchs où il fait 5 points. Alors contre San Francisco, qu'un running back ne fonctionne pas très bien, ça à la rigueur, ça peut être compréhensible, mais là contre les Titans, je veux dire, il y a d'autres équipes qui ont plus performé que ça, donc c'est pour ça.
Non, ouais, je suis d'accord. Je pense que Ridley, il fait un bon match. Je ne sais pas s'il y a des ligues qui ont encore des trade deadlines qui ne sont pas passées, mais pour moi, c'est typiquement le genre de match où tu dis, tiens, je vais essayer de profiter pour voir si je peux le vendre avec ce profil un peu boom-bust cette saison et voir s'il y a de la value. Il y avait aussi Matt Canada, il y avait aussi Travis Etienne dont le rôle a un petit peu changé, tu vois, au début, enfin il y a eu, je me rappelle, 2-3 top flops vers le milieu de la saison où on avait Travis Etienne dans les tops, là c'est plus trop le cas, etc. Donc ouais, c'est une offense bah, forcément qui essaie de trouver des solutions, qui a raison, hein. C'est typiquement le genre de truc où en fait dans la vraie vie ils ont raison de tu vois, je me rappelle week 1, Calvin Ridley avait fait un match de ouf et Kirk avait rien fait du tout. Ils avaient dit ouais, c'est peut-être aussi parce que c'était du man coverage ou c'est justement pas du man coverage, et au prochain match on s'attend à que ça soit Kirk, donc c'était le cas, etc. Donc ils ont une bonne offense, ils ont plein de joueurs, plein d'options différentes, ils vont faire tourner. Pour la fantasy, c'est pas ce qu'on veut, mais pour la réalité, c'est ils ont raison de le faire.
Ok, dans les tops on a notamment le receveur Tank Dell. Tank Dell, mais on peut nommer aussi Nico Collins qui a fait un match plus qu'honorable. Devin Singletary, idem. Gros match aussi. Et comme on avait dit d'ailleurs pendant le warm-up, ça a été gros jeu à la course de Singletary. Et du coup, bah, tu vas garder la main, Marc. J'ai une question pour toi. Est-ce que l'attaque des Texans est la meilleure attaque de la NFL?
Oh, ok, monsieur.
Ça aurait été la dinde.
À chaud, j'ai envie de dire non. pour la fantasy, j'ai aussi envie de dire non, mais ils sont quand même assez intéressants au niveau fantasy, parce que justement, ils jouent contre des adversaires assez faibles et ils ont pas non plus une défense lockdown. Donc, on voit pas mal de matchs avec les Texans où c'est des matchs à gros scoring finalement. Il y a beaucoup de touchdowns d'un côté comme de l'autre. Là, j'ai pas les stats sous les yeux, mais c'est un souvenir que j'ai. 3-4 dernières semaines, j'en ai vu plusieurs où c'est un shootout, et ça, c'est vraiment les matchs qu'on veut cibler en fantasy. Donc oui, effectivement, pour la fantasy, je pense que c'est peut-être une des offenses les plus intéressantes, mais attention, faut se rappeler que Damien Pierce décevait, donc ouais, Singletary fait deux bons matchs là récemment, mais est-ce que ça va continuer? Pierce était encore blessé, non, si je dis pas de bêtises?
Il a pas joué.
Oui, il est out cette semaine.
Et out pour la semaine qui vient, là? Ou on ne sait pas encore?
Il est out pour ce week-end, oui. Ah, pour bon, le week-end bon, qui vient, il est out.
Bah, tant que lui est out, je pense qu'on peut faire confiance à Singletary, qui est un des meilleurs, qui fait un des meilleurs scores sur les deux dernières semaines. Tank Dell, je crois que dans ce podcast, on a toujours été plutôt pro Tank Dell et la connexion qu'il avait avec Stroud. Pareil pour Collins. Il y a Robert Woods aussi dans l'histoire. Enfin, il y a plusieurs joueurs. Donc, c'est un peu pareil. Dalton Schultz.
Noah Brown qui était blessé le week-end dernier, mais qui est là.
Donc au niveau,
c'est pour ça qu'il y a du monde.
Voilà, au niveau running back, j'ai pas de souci tant qu'il y en a un des deux qui est blessé. Quand Pierce revient, bah tout d'un coup je recommence à être hésitant. Et puis au niveau des receveurs, à part Tank Dell, qui semble vraiment avoir une connexion régulière et a au moins le plancher des targets, ouais, je saurais pas trop qui starter. Et puis ça dépendra un petit peu de l'adversaire. Je pense qu'ils ont un calendrier assez simple jusqu'à la fin de la saison, donc c'est ça qu'il faut cibler plutôt qu'autre chose.
Pour information, au niveau du nombre de yards à la passe par match, le premier, c'est Miami, avec 291 yards. Et le deuxième, c'est Houston, 277,7.
Ouais.
Donc, c'est pour vous dire quand même quoi, ça shoot énormément. Si je peux faire... Non, j'en parlerai tout à l'heure à la rigueur par rapport au flop, quoi. On verra ça après. Est-ce que Lucho ou Aptin voulaient rajouter quelque chose par rapport à ça, par rapport à Texans, non?
Moi, je vais peut-être rajouter un truc rapide sur Tank Dell. Je regardais en fait le nombre de réceptions qu'il avait au total, parce que pour moi, il avait un peu... c'était beaucoup de gros plays, donc j'étais parti un peu vérifier. Et en fait, il est 13e receveur aujourd'hui, alors qu'il n'a que 42 réceptions. Et c'est vraiment peu. Si vous voulez, la personne qui est juste au-dessus, c'est Ayuk, avec 43 réceptions. Et on va dire les plus hauts, ils sont entre 70 et 80 réceptions. Donc en gros, très gros usage. Enfin, il y a quand même beaucoup de gros plays, etc. Et c'est clairement pas un nom qu'on pensait voir aussi haut cette année, quoi.
Ça fait plaisir quand ce que l'on prédit ou ce que l'on espérait en off-season avant qu'une saison commence se valide véritablement sur le terrain. On se dit comme quoi ce que l'on espère, ça se fait. Et après, dans les tops, vous vouliez rajouter, est-ce que vous voulez parler de quelqu'un précisément ou,
moi, j'avais une question. Enfin,
ou on enchaîne sur les.
J'avais deux questions à poser. J'en ai une à poser encore à Aptin. Hein. Tu m'excuseras, Aptin, mais comme je sais que tu es de bonne humeur en ce moment, je vais parler un peu des Steelers. Warren, tu le vois starter en fantasy toutes les semaines jusqu'à la fin de saison ou pas?
Ouais, je pense que même... c'est même pas un sujet.
Mais est-ce que même avec Matt Canada, il était quasiment starter à ce niveau?
Lucho, on en a parlé Warhammer, on l'a dit.
Non, mais c'est une question juste pour...
C'est non négociable.
J'avais hésité cette semaine encore, et là, je me dis, ouais, c'est vraiment...
Trouve-nous des questions plus difficiles, Lucho, s'il te plaît.
Ok.
Alors, Jalen Warren, c'est pas compliqué, ils sont 4, enfin, dans le top 4 de ces deux dernières semaines, t'as... Brian Robinson, 47,8 en PPR. Alors, j'ai la stat, hein, je ne l'ai pas en half PPR. 47,8 pour Brian Robinson, 47,7 pour Jahmyr Gibbs, 42,9 pour Singletary et 42,5 pour Jalen Warren. C'est-à-dire qu'il est top 4 RB avec aucun, on va dire, RB numéro 1 drafté, premier tour, deuxième tour, troisième tour. Quoi, tu vois.
C'est quoi ça, t'as dit, sur les deux dernières semaines ?
Ouais, deux dernières semaines.
Et surtout que là, le poste de coordinateur offensif va être repris par coach quarterback et coach running back. Et je pense qu'ils auront un peu à cœur de s'appuyer sur ce qui marche. Et clairement, en fait, depuis le début de l'année, surtout dans les dernières semaines, c'est Jalen Warren qui marche très bien. Et je pense qu'on perd le match de Cleveland parce qu'on ne continue pas à jouer sur lui. Parce que deuxième mi-temps, il fait tous les yards seul. Et on s'est dit, venant, on commence à changer tout notre game plan pour se dire, mais attends, on a des bonnes idées en attaque, on a un coach et un QB qui les deux sont géniaux. On s'est dit, attends, on va changer notre gameplay et on se fait atomiser. Donc pour Jalen Warren.
Ouais, à la limite, j'ai plutôt la question inverse. Est-ce que ça peut ressusciter Najee Harris qui avait fait trois bons matchs sur les quatre derniers jusqu'à ce qu'il tombe sur Cleveland. Mais est-ce que le style de jeu de Harris, après ça dépendra, je ne connais pas le style de ces coordinateurs qui reprennent le truc, mais est-ce qu'ils ont, avec des matchs, peut-être, je vois Cincinnati, Arizona, New England, c'est des matchs qu'ils devraient gagner. S'ils mènent au score, est-ce que Harris, c'est des matchs pour lui, ça ?
Le problème d'Harris, et ça on l'a vu assez rapidement, c'est qu'il est trop touchdown dépendant, sauf qu'il ne fait pas de gros plays. Donc c'est où on arrive sur les 1-2 yards et on espère que ça passe, parce qu'on n'a pas vraiment la ligne pour prendre du short yard edge. Et en fait, c'est comme un tight end, tu vois. Quand le gars, tu dis c'est un boomer bust, est-ce que tu veux vraiment utiliser une place de running back pour Najee Harris?
C'est pas le genre de joueur qui clôture un match que vous menez 20 à 10, tu vois, parce que vous n'en avez pas eu beaucoup des matchs que vous étiez confortable. Est-ce que là, si les trois prochains matchs que contre des adversaires, bon, Cincinnati, c'est plus fort, mais ils ont perdu Burrow. Donc, si vous avez trois matchs, vous menez 10 points dans le quatrième quarter, est-ce que vous donnez la balle 10 fois à Harris et que du coup, il peut avoir ce plancher grâce à ça?
Je pense pas, parce qu'au final, quand bien même on va donner la balle à Harris, on n'aura pas les plays pour faire avancer les downs. Donc, on n'aura pas de first down, il va vite sortir. Alors, je pense que Warren sera plus celui qui va te faire gagner les first down, etc. Donc, je pense pas que tout d'un coup, on va filer tous les ballons à Harris. Parce que pour l'instant, il est très très mal utilisé. Et je n'arrive pas à imaginer qu'en une semaine, tout d'un coup, on va commencer à bien utiliser Najee Harris et lui proposer d'autres courses. Tu vois. J'ose imaginer qu'il y a quand même un peu de différence, mais peut-être pas tout de suite. Et au final, contre Cincy, moi, je ne le starte pas parce que je pense que ça va être un match un peu horrible dans le même délire que celui de Cleveland où c'est vraiment que les défenses qui vont step up, deux quarterbacks qui sont... quarterback 2 ou 3 dans toutes les autres équipes, là, vont se retrouver startés. Je sais pas. Et Patriots, je ne starte pas. Et Cardinals, ils défendent relativement bien. Mais je pense que si tu vas starter dans un match, tu starts celui-là.
est-ce qu'il ne va pas être benché, justement ou,
Non. Parce qu'au final, ça reste. Non, ça reste, tu sais, quand même un peu. Enfin, ça reste quand même un bon running back. Hein.
C'est celui grâce à qui Warren peut aussi. Ouais, c'est ça.
Oui, parfois, exactement ça, tu vois. C'est vraiment, en fait, c'est le fait que deux profils différents, des gabarits différents qui font que ça se passe bien pour un surtout à Warren, parce qu'au final, c'est lui qui va arriver avec les vrais plays, un peu endormir, aller, fonce trois fois dans le tas, on a 3-4 yards à prendre, il va en prendre 20. Mais pour moi, il faut quand même qu'il y ait un profil de Najee Harris pour que Warren se passe bien.
Et donc, ça restera toujours qu'à la course parce que, quand même, l'attaque aérienne, c'est 31e attaque sur 32. Hein,
les Steelers, on va voir si c'est la faute de Pickett ou pas. On va voir si c'est la faute de Pickett.
Vu certaines passes qu'il a faites, la zone, il balance un ballon sur la droite et il n'y a personne à retomber du ballon. Il n'y a même pas un joueur à 5
miscommunication. J'ai regardé le post-game interview, je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme Henry. Miscommunication. Ouais, mais bon, après, en fait, je m'attends quand même à des passes plus faciles. Mais en fait, Pickett, il ne fera jamais de bons matchs. Il ne fera jamais
Misdraft. C'est de la misdraft, quoi. En gros, c'est pas le bon QB que.
C'est pas bon QB.
J'ai pris le meilleur QB dans la draft la plus faible.
C'est exactement QB, ça. D'ailleurs. Après, il y avait quand même une histoire avec Pickett. Tu vois, il a joué pour Pittsburgh. Ouais. Et il connaissait, je crois, Matt Canada d'avant. Donc, en gros, ils avaient déjà joué ensemble. Donc, au final, il y avait quand même une histoire et on s'est dit, ça reste un bon quarterback. S'il est bien entouré, il va peut-être arriver à quelque chose. C'était pas non plus un gros pari. On avait pris, je crois, 20-25e et tout. C'était pas non plus super haut, mais après, c'est clairement un échec. Donc, moi, franchement.
Vous avez deux Trubisky, en fait.
Bah, franchement, on en a trois. Hein. On en a trois.
Vous en avez deux. En fait, vous en avez deux pour le prix d'un.
Bah, on en a trois parce qu'il y a Mason Rudolph qui est toujours dedans. Et moi, je trouve que visuellement, Mason Rudolph, je préférais ce qu'il proposait à Piquet qui propose strictement rien. Donc, tu vois, enfin, Mason Rudolph, dans beaucoup de chats de Steelers ou même des trucs quand ils vont poster, etc. J'ai l'impression que Mason Rudolph, on reparle de lui comme étant peut-être la meilleure option aujourd'hui parce qu'il est quand même jeune.
Ok. Bon.
Ah ouais, c'est la SS. Dans les tops. C'est la galère chez nous, on est désolé, on n'a pas su.
Ah oui, non, mais. T'inquiète. On va en parler de galère d'autres peut-être avec Marc, mais. Mais par rapport au top, donc est-ce que vous avez. Je pense qu'on a fait le tour.
Moi, je voulais parler juste peut-être de Mike Evans, pareil, dans le 7e receveur sur la saison, on n'a pas vu arriver. Et pareil, un peu, moi j'ai mentionné Ayuk et Tank Dell, il a moins de 50 réceptions. Il a 48 réceptions et il est 7e sur le total. Je ne pensais pas ça arriver avec un Mayfield aux commandes. Et on avait dit, Mike Evans, c'est un peu du boomer bust. Il faut toujours son TD pour qu'il marche. Ça fait 4-5 ans qu'il y arrive, donc il faut y croire. Quoi.
Ouais.
Je crois qu'il fait du lobbying pour avoir son contrat dans une autre équipe, peut-être pour l'année prochaine, tout simplement, peut-être. Mais ça, on le verra.
Ouais, plus que 200 variables pour arriver aux 1000, une fois de plus.
C'est clair.
C'est ça, comme
ça. C'est ça qui est incroyable.
Et en plus, en se tapant généralement toujours le meilleur cornerback quand même sur le dos. Quoi. Dans les flops.
Et juste un truc avant de parler de. Est-ce que vous avez. J'imagine que vous n'avez pas parlé de Fields, du retour de Fields à Chicago?
Non.
Non. Je voulais juste dire, il a eu 18 courses. Ouais. Donc 14 qui étaient des designed runs, c'était pas des scrambles, pas des trucs comme ça. Donc j'imagine Fields n'est pas dispo nulle part, sauf dans les ligues les plus shallow par des gens qui l'avaient droppé pendant sa blessure. Mais pour moi, il est vraiment pas loin d'être un vraiment top QB en fantasy, je parle. Hein. Parce que son fumble à la fin.
Il a retrouvé son niveau de l'année dernière. Hein.
Ouais.
Niveau de la fin de l'année dernière.
C'est son fumble ça. À la fin, il met encore 3 plombes dans la pocket. Je sais pas, il a 2 tensions parfois, il m'énerve. Mais pour la fantasy. Avec son upside de rush, il est vraiment exceptionnel. Donc, si par hasard, il est quelque part de dispo, ou que même si vous l'avez sur votre banc, n'hésitez pas à le starter. Pour moi, il est ou même en dynastie pour l'année prochaine, c'est un gros QB en fantasy.
Mais tu as raison que s'il retrouve son niveau de la semaine dernière, ça va être un gros casse-tête pour Chicago pour la draft l'année prochaine. Mmh. Hein. C'est-à-dire avec les picks, parce que théoriquement, pour l'instant, ils ont le pick 1 et 2, je crois. Ou non, ils sont faits.
Ouais, 1 et 3, je pense, parce qu'il y a les Giants. Ouais,
peut-être 1 et 3. Ouais.
Après, ils ont, il y a Arizona.
Dans le top 5, ils en auront 2, hein, en fonction des classements de chacun. Ouais. Du coup, la question va se poser. Quoi. S'ils continuent à performer, ça va être chaud pour le front office des Bears. Ouais, c'est bon, on peut passer au flop,
oui. Monsieur. Alors, Lucho, je te laisse la parole pour les flops. Hein. Gratos.
Vas-y, il n'y a pas de problème.
Dans les flops, alors je vais les nommer encore une fois pour ceux qui ne nous regardent pas mais qui nous écoutent. Bryce Young, Austin Ekeler, Javonte Williams, AJ Brown, Cooper Kupp, Garrett Wilson, TJ Hockenson, Gabe Davis, la défense des Titans, Gex Zuerlein. Autant dire qu'un GM. En prenant tous ces joueurs-là, il construit une équipe pour l'avenir. Enfin, en tout cas, pour gagner un Super Bowl, entre guillemets. Et les gars, c'est que des flops. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de panic meter cette semaine, parce que rien que les flops, si tu veux, c'est panic meter en soi. Moi, j'ai une question à vous poser, et je vais te la poser à toi, Lucho. Est-ce que Cooper Kupp est fini?
Fini, peut-être pas, mais là, sur cette saison, je pense que c'est quelqu'un que tu peux quasiment plus starter. Là, en plus, bon, faut voir là, s'il est dispo cette semaine. Faut voir si, parce que là, il est questionable avec sa blessure. Mais je ne sais pas s'il jouera cette semaine encore. On ne sait pas vraiment. C'est compliqué de le starter. Là, il a fait une réception, 11 yards en un quart temps. Il sort début du deuxième. Je sais pas, l'attaque, elle tourne plus. C'est dommage parce qu'au début d'année, je trouvais que Stafford faisait plutôt des bons matchs, même si les scores n'étaient pas là, même si. Si les Rams étaient un peu en difficulté, mais je trouvais que Stafford faisait plutôt un bon début de saison. Et puis là, depuis leur bail, il n'y a plus grand chose. Il y a eu sa blessure, il y a eu la blessure de Kupp, il y a eu tout ça. Non, c'est compliqué. Franchement, je starterai.
C'est compliqué.
Stafford, il décline. Hopkins, il décline, Stafford. Ça sent le crépuscule, là.
Ouais. Bah oui, on savait déjà. Hein. Après, je pense quand même qu'il peut apporter. Ah, il vient aux Steelers, moi je le prends. Hein. Je pense qu'il peut apporter dans des équipes, tu vois, en galère de QB. Tu le mets vraiment bien entouré dans une équipe. Même un Tampa Bay, je pense que direct, c'est une équipe qui va step up. Il y a encore beaucoup, beaucoup à donner. Mais je pense que dans le virage que les Rams ont pris, ce serait beaucoup plus intelligent de laisser partir et d'essayer d'avoir quelque chose en retour que de forcer et qu'il se blesse et qu'il soit dégoûté du foot, quoi. Il a déjà joué pas mal de saisons à Détroit pour être dégoûté du foot. Je voudrais bien qu'il ait quand même une belle fin de carrière. Les Rams ont pu lui donner sa bague parce qu'ils avaient tout joué sur le court terme. Là, l'équipe, enfin, elle joue pour plus rien, quoi.
Ok.
Ça n'empêche que ça
Du
gagne
coup, en
contre les
fait, ça
Seahawks,
va être.
c'est bien. C'est une bonne chose.
Ouais, ils se sont chiés, si
Voilà, il fallait qu'il la place.
Pardon.
Pukanakua, donc en fait, c'est tout à son avantage. Bon, déjà, il fait partie des 5 meilleurs receveurs toute NFL par rapport à notamment au pourcentage de target share. Il est à 20%, voire même plus. Et il est avec Pittman, Garrett Wilson, Keenan Allen et DeAndre Hopkins en termes de pourcentage. Et vu la situation de Kupp, c'est tout à son avantage. Maintenant, avec le retour de Kyren Williams, où ça va courir beaucoup plus, comme le dit notamment aussi Nimodo, bah, un personnage comme Kupp ou d'autres, ça va être compliqué. Ça va jouer que sur Marc, ça va jouer que sur Nakua et Kyren Williams.
Ouais,
Et rien d'autre?
bah éventuellement Higbee ou Tutu Atwell si Kupp est blessé, mais c'est pas des joueurs pour la fantasy, ouais, c'est Kyren Williams et Pukanakua comme au début de la saison.
C'est pas dans cette équipe qu'on nous a sorti Austin Trammell qui a passé. Alors attends, que je reprenne ça, je crois que c'était là dans ce
Si,
match
c'est
où j'ai
WR
vu un truc de
4,
dingo.
ouais, si je crois, qui a
Hein?
fait.
Ouais, c'est
Ouais,
ça.
c'est ça.
C'est ça. Il sort un 69% de snap avec 3 targets pour 6, 3, 6 targets pour 3
Oh, c'est
réceptions.
fini.
Austin Trammell, donc n'a pas Tutu Atwell, on n'a pas un Skoronek, mais on a un Austin
Ah, tu joues
Trammell
à toi, elle a fait un
qui
bon
sort
match, hein, quand
derrière les
même.
fagots. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même ça, normalement dans la liste, c'était Skoronek avant, quoi. Donc, alors en dynastie, si on parle vite fait de dynastie, Marc, Cup, tu t'en fais quoi?
Bah, en dynastie, Kupp, il arrive à l'âge où c'est presque trop tard pour en faire quelque chose. Soit
OK.
tu es un contender, tu le gardes en se disant bah, peut-être qu'il va jouer pendant les playoffs, fantasy. Soit tu es un peu mort parce que maintenant il est blessé et je ne sais pas trop ce que tu en obtiens si tu veux le vendre. Peut-être les trade deadlines sont passés, mais je pense que il arrive à l'âge. Enfin, c'est la saison où ouais, il a eu des blessures, machin. Et je suis pas sûr que l'année prochaine il va redevenir très utile. Donc c'est presque trop tard pour l'avoir vendu. Je pense qu'en dynastie, si tu étais vendeur, il fallait le vendre pendant sa période, tu vois, week 8, 9, 10, quoi. Maintenant, il faut
Oui, c'est pour ça que je
ride it
parlais
out.
en dynastie, parce que.
Ride it out,
Ok.
voir si éventuellement il rebondit un peu l'année prochaine, essayer d'en obtenir quelque chose. Mais sinon, c'est vraiment qu'un joueur pour les contenders immédiats, je sais pas si c'est
Immédiat. Non, immédiat,
immédiat,
oui.
immédiat. Ouais, contender immédiat en espérant qu'il joue quelques matchs parce qu'il a quand même cet upside. Hein. Il reste Cooper Kupp, même si on a dit, ouais, effectivement, ça, il a des petites blessures qui l'empêchent d'être au niveau qu'on l'a connu, mais. C'est comme Adams, quoi. Il peut rebondir. Davante Adams, il a eu 3-4 semaines où il était nul, et puis maintenant, bah, il a fait de gros matchs. Ça reste des joueurs qui sont capables de faire des grosses performances sur une semaine.
Ok. Je vous le dis d'avance, Garrett Wilson, on va le laisser de côté. On en parlera notamment dans le cadre de la preview des matchs de Thanksgiving. Ekeler, je ne sais plus si on en a parlé en off ou en on. Ekeler, je pense qu'on est en droit de se poser la question, même de sa forme physique, car je ne sais pas l'autre chose si tu as vu comme moi quand même qu'il manquait de
Ah oui,
peps.
on aurait dit qu'à un moment donné, il fait un run là sur le côté où il part à gauche, où tu dis putain, mais il a une charrette le bonhomme quoi. Il avait plus d'énergie. Pourtant, il a fait une course de 10 ou 15 yards. Mais tu dis, mais ouais, c'est pas le Ekeler qu'on a connu, super explosif sur les appuis, sur tout ça. Maintenant, je pense qu'il a eu sa blessure qui l'a vraiment handicapé. Il était bien revenu, il avait fait deux ou trois bonnes weeks. Donc après, je suis pas inquiet plus que ça. Maintenant, je suis plutôt inquiet avec les changements qu'il peut y avoir dans les prochaines semaines au niveau du coaching de Chargers.
Ah.
Je sais pas. Est-ce que ça va faire popcorn? Est-ce qu'on va garder tout ça et on va continuer? Je sais pas. Moi, c'est surtout ça qui m'inquiète, en fait.
Ouais. Est-ce que tu as vu son schedule ou pas pour les PF Fantasy?
Là, déjà, les deux prochaines semaines, c'est Titans et Saints.
Ouais, mais pour les playoffs.
À la course, c'est pas ouf. Après, j'ai pas été jusqu'au playoff. Je t'avoue que j'ai pas regardé.
Ils ont Raiders, Buffalo et Denver. C'est trois équipes qui sont très positives pour les running backs.
En jeu de course, ouais. Ouais.
Et Kyler est 25e.
Aptin ? Ouais.
25e. Ouais,
et du coup, même. Là où on va en venir, Lucho, en fait, c'est que c'est toute l'attaque dans son ensemble.
C'est ça,
hein, simplement.
C'est ça le problème. C'est que,
c'est tous les gars, ils drop.
Mais voilà, c'était justement, c'est là où je veux en venir. C'est, en gros, on peut s'inquiéter. Après, les résultats sont quand même là en termes de points. J'étais surpris quand j'ai regardé le match. Je me disais, mais c'est la cata et tout. Puis quand tu regardes au niveau fantasy, les points, ils sont quand même là. Je ne m'attendais pas à ce que Keenan Allen fasse autant de points.
Keenan Allen, il est monstrueux. Et Eckler, il est, comme dit Aptin, oui. RB25, il a raté trois matchs quand même. Donc, il a ce plancher parce que même quand il fait un match de merde comme là, je l'ai mis en flop parce que sa proche, elle était à 17-18. Donc, techniquement, c'est un flop, mais il fait 6 points, tu vois. Donc, il a du volume. Il a eu trois matchs où il était mauvais, sans touchdown, et il a fini RB26, RB39 et RB32. Donc, c'est pas non plus de la catastrophe comme Derrick Henry ou des joueurs qui peuvent te taper un ou deux, tu vois.
Là, il fait 10 carries pour 64 yards. En soi, c'est pas dégueulasse.
Ben non, c'est bien.
S'il y a pas carry, donc c'est pas.
Ouais.
J'ai un peu du mal sur cette partie-là. Ça fait. À part la première semaine où il avait dépassé 100 yards, il n'a pas dépassé une seule fois 100 yards à la course qu'à la course. Et justement, tu parles tout à l'heure de charrette, et je pense qu'il est arrivé à un âge où il a plus justement ce breakaway speed où tu vas vraiment arriver à. Donc en gros, il sera toujours aussi bon sur les passes, il y aura toujours le plancher dont Marc vient de parler. Mais je pense que c'est clairement plus un RB sur lequel tu peux. Enfin, que tu vas chercher dans un premier round. L'année prochaine, enfin, moi, j'arrive pas à me dire.
L'année prochaine, c'est sûr que non. Mais il faut se rappeler que le gars qui l'a remplacé, dont le nom m'échappe, parce qu'il y en a plusieurs qui en ont similaire. Kelly, non? Josh Kelly?
Kelly,
ouais. C'est ça, Josh Kelly. Josh Kelly, pendant les trois matchs où Eckler n'était pas là, il était nul. Il faisait rien, Josh Kelly.
Nul.
Donc, ça prouve quand même que Eckler est une upgrade par rapport à ça. Maintenant, il a 28 ans, ça ne sera plus le RB1 que ça a été les trois dernières saisons. Il a plus autant de targets à la passe, il a plus le même volume qu'il a eu les dernières années et il a plus l'explosivité, mais il a un plancher intéressant. Et avec Denver, Las Vegas, Buffalo, Denver pour finir la saison, je serais pas
cupcake.
Ouais, je serais pas trop cupcake. En train de le vendre. Le problème, c'est que je pense que beaucoup d'équipes qui ont éclair comme les miennes seront hors playoff et pourront pas profiter de ce calendrier pour les week 15 à 17. Mais
est-ce qu'il y aura du changement d'après toi?
De coaching, peut-être.
Ouais.
Ouais.
Moi, personnellement, je m'attendais à ce que ça soit là, mais bon, mais pas de bol.
C'est étonnant.
Je disais, s'ils perdent, ça serait là, mais bon, voilà.
Après, ils ont les joueurs les plus payés en défense. En gros, quand tu regardes le salaire.
En défense, c'est à plus de 100 millions. Ouais, c'est la pire défense exactement. Excusez-moi.
C'est quand même assez.
Non, mais en plus, c'est fâché tout rouge en conférence, Pépère, hein, dans notre stalet, là. Parce qu'on lui appuie là où ça fait mal et là il n'est pas content, mais ça peut pas, c'est pas viable. Dans les flops, on va pas s'éterniser sur Bryce Young, c'est compliqué pour lui, hein, les Panthers, l'attaque des Panthers, les appels de jeu et tout. Je pense que c'est qu'une continuité malheureusement pour lui, c'est le dur apprentissage dans une équipe NFL pour la première saison. Javonte Williams. C'est le game script aussi parce qu'ils ont un peu couru quand même derrière l'attaque des Minnesota Vikings. AJ Brown, Aptin, c'est un accident.
Accident,
d'accord.
Ouais, je m'en fais pas trop pour voilà. Même si tu m'as posé une question et j'ai pas trop le choix.
Oui, mais c'est un accident, tu confirmes ça, je veux dire. Tu confirmes.
Oui.
Après,
c'est un accident
quand l'embrouille est pas évident. Hein.
Oui, mais ça,
quoi, AJ Brown?
Philly a un calendrier.
Non, mais on s'en fout. Du... Alors là, AJ Brown, il a un stade où
ouais, peu importe
sur le calendrier. Enfin, à moins... ou alors, il y a une time news dont je ne suis pas
au courant. Non, juste qu'au niveau du calendrier. Ah, bon, faut...
Moi, je te dis juste qu'AJ Brown, il a attrapé les coachs et le QB. Il a dit hey, si je refais 10 yards, je vous démonte tout
ça. C'est ça, c'est le truc, c'est qu'à chaque fois qu'il fait un mauvais match, il se plaint.
Et il fait 200 yards après.
Le truc avec Philly. Ouais, le truc avec Philly, c'est que ça prouve qu'ils ont vraiment pas le leurs receveurs ont pas se plancher parce que justement ils ont là en plus il y avait pas Goddard, mais parfois c'est Devonta Smith qui fait ça, genre Devonta Smith il pourrait être super WR2 mais il a ce problème qu'il peut te taper un zéro n'importe quel jour, tu vois. Et Brown, bah du coup, bah c'est rare, mais voilà, ça arrive, quoi. Et
senti... Mais on l'avait annoncé en warm-up avec France, on l'avait annoncé que AJ Brown allait pas faire un bon match. Ah. Que c'était Devonta Smith qu'il fallait cibler en receveur sur ce match-là.
Écoutez le warm-up. Moi, j'ai écouté le warm-up et on m'a dit de citer Trevor Lawrence et Calvin Ridley. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais écoute, vous avez raison. Écoutez le warm-up pour savoir qu'il faut laisser AJ Brown.
Ah, la balle perdue. Oh là là, l'esprit Thanksgiving, quoi.
Alors,
oh là là, quel bel esprit.
Trevor Lawrence, c'était au halftime. Voilà. Okay. Déjà, si tu mélanges tes émissions, c'est pas ma faute. Reprends un cogitum, ça va te rappeler quand même comment on s'organise. Non, mais demande à France, on l'avait dit. Mais après, dans la liste, pour moi, surtout des flops, il y en a un qui n'est pas cité, c'est Stephon Diggs des Bills. Et ma question, du coup, pour Aptin, c'est par rapport à la mise en place avec le nouveau coordinateur offensif Joe Barry, on est sur une attaque plus polyvalente, et du coup, ou en tout cas avec beaucoup plus de personnes impliquées, et du coup, est-ce qu'on s'inquiète de Stephon Diggs?
Je trouve Stephon Diggs, c'est un peu plus différent parce qu'on l'a beaucoup vu dans les flops. Donc, c'est pas comme si c'était vraiment un accident de parcours. Diggs, et pourtant, lui, pour faire sa diva, on voit quand même un peu beaucoup. Mais je serais peut-être prêt à parler peut-être d'une cassure dans l'alchimie avec Josh Allen, en plus du coaching qui est en mode non, mais nous, Diggs, c'est pas parce qu'il crie qu'on va lui donner la balle. Donc là, ils sont plus en train de jouer leur survie, je pense, tout le coaching, parce qu'il sort quand même d'une saison pas réussie pour l'instant côté Bills. Donc, moi, je serais un peu plus inquiet. Je pense que tu ne peux pas te permettre de citer Stephon Diggs. Après, s'il faut avoir plus d'infos, je pense qu'il faut inviter son frère dans le podcast qui a beaucoup de choses à dire. Mais non, après, c'est, comme je te dis, c'est dur de le citer, mais c'est dur d'avoir confiance quand tu le startes.
C'est une question que je pose, mais est-ce que ça ne correspond pas aussi à la blessure de Knox et du coup au fait que Kincaid est plus sur le terrain, les deux mauvais matchs, ou est-ce que c'est... Je ne me rappelle plus quand c'est arrivé, ça. Mais c'est vrai qu'il a deux mauvais matchs d'affilée contre Denver et Jets. Après, Denver et Jets, attention, ils ont des bons cornerbacks aussi. Donc, c'est peut-être une question de schedule. Mais j'ai l'impression que ça ne correspond pas à Kincaid.
Non, et là, en fait, non, c'est surtout sur le changement. Knox-Kincaid, c'est quasiment en transition. Je crois que c'est la Nouvelle-Angleterre contre les Patriots.
Ah ouais, donc il y a eu des bons matchs entre-temps. Ouais.
Donc, il y a déjà eu trois matchs. Ouais. Ils ont fait trois matchs ensemble, Diggs et Kincaid.
Ouais, et Diggs joue bien dans ce match.
Pour cohabiter en termes de points. Ouais. Surtout qu'en plus, Kincaid, tout de suite, il fait 11 points, 15 points, 11 points dès le départ. Mais non, je pense que...
Après, cette semaine, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas voulu prendre de risques, en fait. Ils n'ont pas... Tu vois, dans les passes, dans tout ça, je pense qu'il n'y a pas eu énormément de risques.
Ils en ont pris. Simplement, on regarde le nombre de joueurs qui sont impliqués. Et c'est là justement où je parlais de la polyvalence par rapport au coordinateur offensif. Et du coup, entre Josh Allen, qui est capable de nous péter des durites et faire trois interceptions sur le même match, et c'est pour ça que je posais la question à Aptin, qu'est-ce que je fais de Stephon Diggs, quoi.
Qu'est-ce que je fais d'Aptin? Moi, ne startez pas.
Oui, à Aptin, de Stephon Diggs. Si, startez jamais, mais en cornerback numéro 1. C'est le Darren Bland d'Anière.
Darren Bland.
Donc Stephon Diggs, c'est juste là, c'est l'enchaînement, mais ça donne quoi de la suite?
Bah, prochain match, c'est Philly. Philly, c'est open bar, généralement. Généralement, hein, si tu t'appelles pas Marquez,
généralement, on peut en parler.
Ouais. Je pense que là, c'est le match idéal pour qu'il rebondisse. Gros match, Philly, je sais pas si c'est prime time ou pas, on va schedule dans une minute. Mais pour moi, c'est le genre de match où il peut rebondir. Après, le plus gros danger, c'est si Buffalo, effectivement, sort des playoffs parce qu'ils sont un peu en galère. même s'ils ont gagné contre les Jets, je crois, je ne sais pas quel est leur pourcentage de chance d'aller en playoff, mais ça, c'est pas comme avant. Et donc, c'est plus ouais, sur la fin de la saison, s'il y a une vraie rupture avec Diggs qui veut se casser, qui, ouais, je ne sais pas, ça, c'est le seul risque. Ouais. Sinon, je ne suis pas trop inquiet par son volume.
Ouais. Ouais, ils vont peut-être courir après le score, donc je pense que Diggs, il pourrait être un peu plus sollicité. Quoi.
Ouais. Ok. Parce que normalement, c'est vrai que le rest of season, c'est quand même des match-up qui sont faits pour les receveurs. Ok, parfait. On va passer au match du Thanksgiving. Donc, il y a trois matchs notamment programmés jeudi. Et on va parler aussi du quatrième à la fin, qui est le Amazon Game. Donc pour le Black Friday, c'est tout est marketing aux États-Unis. Donc on a Packers Lions, Commanders Cowboys et Niners Seahawks le jeudi. Avec donc ça commence 18h30 heure française, Green Bay Détroit.
tous les ans le même.
Oui, tous les ans même. Mais pour une fois, tu te rends compte, depuis Limit Kennedy, Détroit fait peur.
Ouais.
C'est intéressant d'avoir un match de Thanksgiving où il y a Détroit. Parce que je me rappelle d'un Patriots Lions, il y avait 20-0, je crois, l'équipe de Brady. C'était une purge. Donc, sur ce match-là, est-ce que. Lucho, est-ce que Jordan Love est un quarterback à streamer?
Moi, je suis.
Est-ce que c'est intéressant?
Moi, je le trouve intéressant, Love. Enfin, intéressant. Je ne vais pas dire que c'est un top quarterback ni quoi que ce soit, mais je pense que c'est un QB qu'on peut starter.
Mais vas-y, lui, il tabasse ton Purdy 15 fois. Qu'est-ce que tu...
Purdy, il est dans la course du MVP, s'il te plaît.
C'est l'équipe qui est le MVP, c'est pas lui.
Je rigole, c'est bon, les gars. J'ai même pas parlé des Niners aujourd'hui, pourtant, j'aurais pu. Mais
pas encore, ça va venir.
Non, j'en parlerai pas parce qu'après, je te dis, là, c'est ce que j'ai mis sur Twitter tout à l'heure, on me traite de fanatique après. Mais non, Love, ouais, je le starte contre Détroit, oui, je peux le starter.
Ok. Aptin, toi,
pareil. Ouais, pareil, je le starte. Ouais.
Jordan Love, il a lancé pour plus de 300 yards donc son dernier match avec une vingtaine de points. Ça lui était pas arrivé depuis week 3. Mais bon, ça a l'air d'être en place. Ce qui est dingue, c'est surtout pour le deuxième mi-temps, j'ai vu la stat. En fait, Green Bay est la meilleure équipe de la NFL en nombre de points marqués en deuxième mi-temps.
Jouer que deuxième mi-temps.
Et en général, ils jouent que les deux derniers cartons.
En général, ça veut dire que tu cours après le score.
Oui, c'est un peu ça, avec tu démarres en diesel. Et ce qui est tout l'inverse, par exemple, si je fais un comparatif, on parlait de flop tout à l'heure, des Kansas City Chiefs, à l'opposé, ils marquent seulement, donc les Green Bay marquent à environ 14,3 points en deuxième mi-temps, et les Chiefs marquent 5,3 points en deuxième mi-temps.
Ça, c'est vu.
C'est la pire équipe de la NFL.
Ça, c'est vu sur le
week-end. Et c'est pour ça que justement je disais ça, c'est parce qu'en même temps, ça s'est vu ce week-end. Donc après, est-ce que vous êtes capable de me citer un ranking des receveurs des Packers? Marc, c'est ton sujet préféré.
Ah, oui,
c'est
pour ça que je
vais te le donner. Attends, il est sur Excel. Ton Excel, Marc.
Est-ce que, non, j'ai pas besoin de est-ce que pour toi, il y a un WR1, un WR2, un WR3, un WR4?
Que des WR4.
Non, pas forcément en volume, mais en termes d'efficacité, je pense que Reed et Wicks sont les meilleurs. Après il y a Dobbs qui est impliqué et puis Christian Watson qui est le boom bust sur lequel tu peux jamais avoir de boom parce que ça pour le coup on en a parlé plein de fois parce que la connexion avec Love fonctionne pas et en plus de ça il est un peu blessé donc je pense que Watson c'est celui à ce stade maintenant je le cite partout ça c'est sûr. Reed j'aime bien, il y a beaucoup de ligues avec trois receveurs où je l'ai et je le starte. Wix, je le starte pas, mais j'aime en dynastie, c'est quelqu'un que je target partout où il a été droppé. Et zut, maintenant le dernier m'échappe. J'ai dit Reed, Wix et. Dobbs. Ah oui, Dobbs. Alors Dobbs, pour le coup, je l'ai pas.
George Nielsen.
Ouais, Dobbs, je l'ai nulle part. Et donc, du coup, quand je les ai pas, je les analyse un peu moins. donc, ouais.
Mais en tout cas, je te félicite parce que tu as donné presque dans l'ordre statistiquement les quatre, puisque à l'heure actuelle, c'est Wicks le meilleur en nombre de yards par route.
Ouais, ouais, en efficacité, je sais que c'est meilleur. Ouais.
Jaden Reed, 1,93. Romeo Doubs, pardon, 1,37. Et Christian Watson, 1,28. Mais en termes de fantasy, à l'heure actuelle, c'est un peu tendu.
C'est Reed et Doubs.
C'est vrai que c'est un peu à côté. Comment ?
Non, je disais que Reed et Doubs doit être à côté, je pense.
Ouais, c'est les, pour toi, c'est les deux meilleurs à starter en fantasy.
Ouais, 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 c'était super. Enfin, je pense que des. Non, ouais. Franchement, les deux. Je pense que les deux te ramènent entre 8 et 10 un peu toutes les semaines. Peut-être quelque chose comme ça. Et une équipe, on pensait qu'il n'y a pas de receveur 1. Je trouve que ça fait des bons WR2 flex, surtout en ce moment avec tous les blessés qu'il y a. Je pense que ça va être un bon match, hein, de Détroit Green Bay.
À point de vue fantasy, ouais.
Bon, mais match de coup.
Alors, question Lucho, par contre, le jeu de course, parce que là, on va être dans l'unidimensionnel. Puisque techniquement, Blanc Wilson est tombé en hier. Aaron Jones, il est DNP, ouais. Donc top full. Donc ça va être en A d'ici peu de temps. Je le dis aussi d'ailleurs en parenthèse, hormis RB, on a Luke Musgrave qui est tombé dans l'IR parce que lui, c'est blessure abdominale, etc. Donc c'est pas drôle. Mais par contre, ils ont monté la practice squad. James Robinson, l'ancien running back des Jaguars, pour suppléer à AJ Dillon. Mais face aux Lions, AJ Dillon, on le starte pas, Lucho ?
Ça, non, je pense pas. Je pense pas parce que, à mon avis, ils vont courir après le score, donc ça va plutôt jouer à la passe. Personnellement, je le starterai pas.
Ok. Du côté Détroit, est-ce que. Alors, Green Bay est la 8e pire défense en yard après contact contre les running backs. Marc, pour toi, ça va être, est-ce que ça va être un festival du jeu de course avec Jahmyr Gibbs et Montgomery? Et limite les receveurs un peu mis de côté ou pas?
On est encore sur Green Bay Détroit, les gars. Je sais pas. Ouais, bah, je pense d'autant plus que je pense que Détroit va gagner le match et donc mener au score. Et donc oui, je pense que ça va être un très bon match pour les deux, Montgomery et Gibbs.
Ok. Et les receveurs, dans ce cas, on peut s'inquiéter ?
Pas forcément, non. Saint Brown, je ne m'inquiète pas parce que pour moi, c'est un WR1 quoi qu'il arrive. Jameson Williams, c'est quelqu'un que j'aimerais bien voir faire des stats. Pour le moment, c'est encore un peu tôt pour lui faire confiance. Et après, les autres receveurs... Je ne sais même pas qui c'est. Donc oui, non, ça sera plutôt Gibbs et Montgomery. Ouais, et plus Saint Brown. Et... Alors, Laporta, c'est intéressant. On a... Regardez, mets-le en grand. Mets-le en grand, Antoine. Attends, comment on fait ?
Un bisou à notre Antoine.
Antoine Droissard. Voilà. Regardez sur votre écran.
En ce meilleur kicker de France.
Ouais.
Bon, ça, c'est un bon.
Ouais, Laporta, je suis incertain sur Laporta. Actuellement, je pense qu'il a bénéficié un peu du fait qu'il était rookie, que les défenses qui met pas trop contre lui et les derniers matchs c'est un peu moins bien. Mais ouais, non, je dirais Saint Brown et les deux running back. Voilà.
Est-ce qu'il est comme beaucoup de tight end en fait tout simplement TD dépendant?
Probablement.
Ok. On va passer au match suivant. Washington Dallas. Aptin, Samuel face à la défense de Dallas, on peut attendre quelque chose de sa part? Tu penses qu'il peut maintenir un rythme, comme on dit, face aux grosses équipes où il peut cartonner?
Je ne pense pas qu'il va cartonner parce que personne ne peut cartonner. Les Cowboys, c'est l'une des trois meilleures défenses. En plus, ils sont vraiment méchants avec les quarterbacks, j'ai l'impression. Mais après, on sait qu'il a un super plancher. Bebler, il était en galère totale. Je crois qu'il envoie 2-3 interceptions ce week-end. Mais il court tellement qu'il reste avec un score plus qu'honorable. Je pense que ça va être un match pareil où ils vont courir au score. Donc, je pense que il va avoir un plancher de 14 points, mais je ne vois pas faire un trop, trop gros match non plus contre la défense des Cowboys. Donc, c'est un peu difficile de se dire s'il va score ou pas. Il fera pas mieux qu'avant, mais je pense qu'il a un bon plancher. Ça dépend de ce que vous avez dans votre équipe.
Donc, Lucho, en fait, il joue essentiellement avec qui, peut-être pour s'assurer sa survie, entre guillemets, face à la défense de Dallas?
Je pense que ça va beaucoup jouer. Alors j'espère avec McLaurin, parce que McLaurin, on en avait parlé un peu la semaine dernière en disant qu'il pouvait faire un gros match. Mais il n'a pas fait un super match, mais je pense que McLaurin peut être pas mal. Après, ça va peut-être beaucoup jouer aussi avec les running backs. Je ne sais pas, Gibson, il est encore questionable. Je ne sais pas s'il
Du
jouera,
coup,
je sais pas s'il jouera ce week-end. Mais Brian Robinson, ça peut être intéressant de l'avoir. On a vu qu'à la passe, il pouvait être aussi bon. Chose qu'on ne s'attendait pas forcément avec lui. Mais ouais, après, je pense qu'en fait, on voit trop Dallas se dire, ouais, Dallas va rouler sur les Commanders. Je suis pas
ouais.
certain que ça.
Ouais. Historiquement, je crois qu'ils les font chier déjà. Donc,
Ouais, les Commanders aiment bien faire chier Dallas. Donc, c'est ce que Mathieu, en plus, rajoute sur le chat.
Et comme on l'a toujours dit, en plus, les Commanders haussent leur
Oui,
niveau de
voilà,
jeu
c'est ça.
face aux
Face
gros.
au gros, ils aiment bien ce genre de match. Donc,
Regarde, contre les Giants, hein, ils ont perdu. Hein.
moi, je pense que ouais, Howell est startable. Comme Aptin le disait, il va avoir un plancher qui va être intéressant. Je pense que les 14-15 points, il peut les viser assez facilement. Après, pour dire dans l'offense qui sera visé, ça sera plus compliqué. Il y a Logan Thomas aussi hein, qui est intéressant, le tight end, qui est quand même beaucoup visé. Alors que cette année, je pensais que ça allait être l'année de trop limite pour lui. Mais il est encore là, il est toujours présent. Donc, non, non, il y a plusieurs joueurs qui peuvent être visés.
Brian Robinson, il a eu 9 targets la semaine 11. Il est à hauteur de. Dernièrement, il est entre 15 et 21% de target
Non,
share.
non, c'est
C'est
pour ça,
énorme.
c'est ce que je disais, c'est
Franchement, on découvre une phase de son jeu
qu'on connaissait pas
qu'on ne voyait
forcément.
pas avant, quoi. Ouais. Et Marc, du côté Dallas, y a la question se pose quand même toujours, Pollard. C'est l'arbre qui cache la forêt le dernier match?
Non, 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 pour
Tony,
moi, Pollard.
touchdown Pollard, s'il te plaît.
Ah ouais.
Il a marqué,
Non,
enfin.
pour moi, Pollard, c'était un peu ouais, dépendant du match-up. Et donc, bah, ça continue. Hein. Là, les match-ups sont un peu plus simples et il a marqué un touchdown. Après, ça ne sera pas forcément pour revenir. Ouais, bah, finalement, c'est plutôt bien si Washington garde le match serré parce que je pense que Pollard jouera plus. Et que par contre, si ça devient une branlée, il sera un peu ménagé. Mais non, Pollard, pour moi, ouais, contre les équipes, contre les match-ups plus faciles, c'est un bon starter, selon moi.
Ok.
Je suis pas spécialement inquiet par Pollard.
Doodle en Deep League, on peut oublier, vu ce qu'il a fait, ou on garde toujours ça sous le coude, hormis pour la blessure de Pollard, je parle.
Ouais, bah au-delà, bah si, je pense que tu peux le garder. Mais après, ouais, c'est difficile de le starter parce qu'il a vraiment aucun plancher lui pour le coup. Donc, il faudrait vraiment que ça soit une très très deep league comme la super deep qu'on a éventuellement. Mais il faut s'attendre à ce qu'il peut marquer 2 points, 2,5 points s'il n'a pas le ballon.
Ok,
En plus, apparemment,
donc
il est
ça c'était.
incertain.
J'ai pas.
Après,
Pardon.
non, pardon, je dis en plus,
Qui?
apparemment, Dowdle est incertain selon le insider.
Ah ouais? Ah tiens, non, j'ai pas
On
vu.
peut pas starter blend.
J'avais pas pris. Eh ben oui, Blaine, ça c'est sûr. J'avais pas précisé, donc le Washington-Dallas, c'est 22h30 heure française. L'autre match, le dernier match du jeudi pour Thanksgiving, San Francisco-Seattle, 2h20 du matin.
Ouais. Ça peut passer, ça.
On
Allez,
peut passer?
voilà.
Alors, non, mais moi j'ai une question pour Aptin. Bon, Ayuk, ça on le sait
Excuse-moi, excuse-moi, Alex, je
comment.
coupe.
Oui, oui,
Breaking news,
oui.
Aaron Jones out pour ce
Ah.
week-end.
Ouais, mais ça c'est.
Voilà, c'est annoncé.
Il a dit
Là, c'est
breaking news.
officiel. C'est officiellement officiel. Excuse-moi.
J'ai cru qu'on avait que ça allait être un truc intéressant.
Ma parole. Le Big
Ouais.
Ben était le new OC de Steelers, tiens, un truc un peu marrant, quoi. J'ai vu Antonio Brown pour ça.
Oui, je disais, Lucho nous répète tout le temps, et de toute façon, c'est quelque chose qu'on avait dit dès le départ de la saison, que Ayuk il était trop fort, hein, que c'était lui le receveur numéro un évident. Mais Deebo Samuel, quand même, quelque part, on en fait quoi? C'est un peu montagne russe. Est-ce que il est à quel stade? Il est quoi? Flex? Il est WR2? Comment je m'en sors avec lui?
Je pense qu'aujourd'hui il a un niveau WR2 slash flex,
Mais après, si tu as besoin d'upside et que déjà, en fait, tu vois dans les projections que potentiellement, tu n'es pas parti pour gagner, qu'il faut que tu joues sur des scores, on va dire, très, très volatiles, où tu dis, bon, là, j'ai vraiment besoin d'upside. On met, je sais pas, moi, j'ai besoin vraiment 20-30 points. Il peut te les apporter sur un match. Donc, c'est à quel point vous êtes en galère, c'est triste de dire ça. Mais moi, aujourd'hui, je me dis que j'arrive pas à starter un Dibo parce que j'ai pas vu une suite de matchs où il était régulier et beaucoup utilisé. Donc, bien sûr, il était blessé, il est revenu. Là, on voit que ça tourne assez bien. Mais la seule personne, non, parce qu'au final, il y a quand même McCaffrey qui est pas mal utilisé. Mais je trouve que ça tourne quand même beaucoup autour que de deux joueurs. Et même, par exemple, un Kittle, c'est un peu la même histoire qu'un Dibo. C'est vraiment sur un match, il peut exploser, mais régulièrement, il n'y a personne, quoi. Donc, moi, j'aurais du mal à le starter, perso.
OK. Au niveau des Niners, pour moi, c'était le seul joueur vraiment où on peut se poser la question de savoir si on se start ou sit, pardon. Lucho, par contre, du côté de Seattle, donc on a DK Metcalf qui est out, et on a surtout aussi Kenneth Walker qui est out. Donc, ma question, est-ce que Charbonnet va charbonner?
Pas face aux Niners, Avec le pass rush qu'on a, je pense pas. En plus, là, j'ai vu que Smith est questionable. Bon, il devrait jouer quand même. Mais après, c'est toujours un match qui me fait peur face aux Seahawks, le jour de Thanksgiving. J'ai le souvenir de Richard Sherman qui bouffait la dinde sur le central après une grosse victoire de leur part. Si on compare la dynamique des deux équipes, les Seahawks, normalement, doivent se faire rouler dessus. Maintenant, je vois pas Charbonnet faire une grosse production ce week-end. Mais ouais, je sais pas, j'aime pas ce match-là. Thanksgiving,
mais toi, t'aimes aucun match, toi, de toute façon.
Non, j'aime pas. Contre les Seahawks, en fait, c'est. Tu me dis n'importe quelle équipe, ouais, je veux bien. La semaine dernière, contre Tampa, tu vois, j'aurais dit, ouais, on va leur rouler dessus. Mais là, contre les Seahawks, en fait, tout va se jouer sur les deux confrontations qu'on va avoir contre eux. Et c'est typiquement le genre de match où on peut passer à côté, et c'est ça qui m'énerve. Mais non, Charbonnet, non, personnellement, je ne starte pas cette semaine.
Au niveau des receveurs, Marc, avec les semi-blessures de Tyler Lockett, Swiss Ejigba a beaucoup plus de target share et de route que comment Tyler Lockett. Pour toi, Swiss Ejigba est receveur numéro 1 et Tyler Lockett numéro 2 sur un match contre les Niners?
Il joue pas à Metcalf?
Non, il est out.
C'est vrai?
Monsieur le président.
Ok, si Metcalf est out.
Maintenant, je dis peut-être une bêtise, s'il vous plaît, corrigez-moi si j'ai collé dans le chat notamment.
Vérifier si Metcalf est out. Sinon, c'est Metcalf le WR1 pour moi et les deux autres. Les deux autres ont un profil un peu similaire, mais je suis quand même plus sur Lockett. Et son upside de touchdown, parce qu'à chaque fois que je parie contre Lockett depuis 5 ans, il fait un gros match. Et non, mais c'est vrai, il a vraiment cet upside. Alors, Njigba, c'est un joueur que j'aime beaucoup, donc c'est pas contre lui, mais pour le moment, j'ai quand même plus confiance en Lockett. Et ça vaudrait aussi si Metcalf était out.
Alors, du coup, oui, maintenant, vous me mettez tous en doute. Je ne sais pas pourquoi j'avais lu quelque part que Metcalf était out.
Il est questionable, ça fait deux entraînements qu'il ne fait pas cette semaine, mais c'est blessure au pied, pas à l'orteil.
Et c'est peut-être parce que j'ai vu du DNP à gogo que j'ai peut-être fait une association d'idées, mais j'ai dit qu'il était out. Le dernier match, celui-là, ça va être un peu plus facile à terminer pour l'émission. Miami-New York Jets.
Ah, ça, c'est Black Friday, ça.
Alors, Black Friday, exactement. Alors, on va commencer par New York. Les Jets qui ont attendu semaine 12 quand même pour réagir face à leur problème de QB. Et ils choisissent un QB. Attention, ils choisissent Tim Boyle. C'est drôle, Marc, tu en avais parlé, tu m'avais posé la question. Et Tim Boyle pour les Jets. Et je t'avais dit, c'est pas mieux, voire même presque pire, techniquement, statistiquement, le connaissant un peu du côté des Packers. Ben voilà, ils ont fait le choix de Tim Boyle.
Ils ont surtout fait le choix de faire venir personne pendant qu'ils pouvaient. Et...
voilà,
moi, ce que je ne comprends pas, qu'est-ce que Robert Saleh a vu la semaine dernière qu'il n'avait pas vu les 10 semaines d'avant où il disait « Ouais, Zach Wilson joue bien, Zach Wilson c'est notre gars, Zach Wilson c'est… »
T'as des mecs qui sont vraiment chauds en entraînement. Hein.
Ouais, non mais c'est ça. Et là, tout d'un coup, il en a eu ras-le-bol, il a pété un câble, il l'a benché.
Non, mais c'est surtout que tu dis, tu vois, pendant la période de mercato, les gars, ils essayaient de trader pour Davante Adams.
Mais en attendant, pourquoi ils n'ont pas fait venir un Flacco,
trader pour un super receveur et que tu as un QB qui est bidon. Et qu'en plus, d'attendre semaine 12 alors que tout est passé période de trade pour nommer ton QB qui est Tim Boyle. Alors que d'autres vont chercher Joe Flacco, ils vont chercher des.
Il y en a eu des opportunités. Jobs,
etc. Et ouais. Mais lui, non, Tim Boyle. Bon, ok, tout va bien. Du coup, je suis Garrett Wilson, je pleure, Aptin. Je fais quoi?
Ah ouais. Moi, je ne parle plus des personnes qui sont très fortes et qui n'ont pas de ballon. C'est pour ça que je ne parle plus des Falcons, je ne parle pas de Garrett Wilson.
Et juste pour vous dire un truc, Allen Lazare a eu 20 réceptions et un TD en 10 matchs avec les Jets. Donc lui, il a un contrat de 4 ans, 44 millions de dollars. Hein. Pour moi, ce mec-là, c'est le nouveau Corey Davis. Quoi. Le mec, il a un contrat de dingue pour un nombre de réceptions, un nombre de TD, bidon. C'est impressionnant. Pour ce qui est de Miami, Lucho, c'est festin pour Mostert ce week-end, pas vendredi.
Ouais, probablement. Alors, Etienne apparemment n'est pas out pour l'instant. Même si, à mon avis, il aura une production qui sera minime, je ne les vois pas prendre de risques avec lui. Mais oui, Mostert devrait se régaler. Est-ce que j'ai une question, c'est vrai que j'ai pas vérifié, est-ce que Jess Wilson est revenu ou pas?
Oui, normalement il est là. Pour moi, il est là.
Donc après avoir la production de Jeff Wilson, est-ce qu'ils vont pas se partager un peu le workload? Pas sûr, mais
ouais, bah, après, la semaine dernière, il était dispo, il a juste pas joué.
Oui, il a. Ouais, donc, je sais plus s'il était encore blessé ou.
Non, il est pas blessé. Qui aurait pensé que en 2023, week 12, le seul running back encore en bonne forme de Miami
serait Mostert.
Mostert.
C'est dingue.
Parce que Salvon Ahmed est out. Achane, certain avec sa rechute au genou.
En fait, s'il n'est pas à 100%, Achane, j'ai l'impression que c'est tout ou rien. Il est assez.
Ça, c'est le problème des mecs super athlétiques, ça. Kadarius Toney, c'est un peu pareil, même si c'est pas du tout le même style de jeu. Tu te dis, si il n'est pas à 100%, il n'arrive pas à faire ce qu'il peut faire. Et puis, des mecs super rapides. Il y a des joueurs comme ça qui sont capables de jouer, même blessés, même quand ils ont mal. Mostert en est d'ailleurs, parce qu'à l'époque où il était à San Francisco, avec Aptin, on rigolait chaque semaine. On disait, le mec, il est indestructible. Et malgré le fait qu'il est rapide, il arrive à jouer avec des blessures. Il y en a d'autres qui, dès qu'ils sont un peu emmerdés avec des blessures musculaires, des trucs, la chaîne, c'est au genou. Ils sont moins bons,
Mais Tyreek Hill blessé, excuse-moi Alexa.
Non, vas-y, mais... vas-y, le poignet.
Ouais, c'est ça. Ouais, blessure à la main.
Pour moi, il est juste questionable, mais qu'il n'y a aucun problème et il devrait jouer à un moment ce week-end. Quoi. Mais là, en fait, juste pour terminer sur Achane et sur le match, Achane, on est d'accord qu'on le bench. Même si
à moins qu'on nous dise d'ici vendredi qu'il start ou j'en sais rien, qu'il n'a aucun problème, mais sinon tu le benches. Tu peux pas.
Parce que comme il dit, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, le coach, donc c'est pour ça que.
Non, j'ai... Quand on me dit peut-être ben que oui, peut-être ben que non, et qu'on le sort après un carry, la prochaine fois, j'y crois plus.
Parfait. Ben, messieurs, merci beaucoup. Marc, Lucho, Aptin, merci d'avoir fait l'émission. Ce soir, pour cette spéciale Thanksgiving.
Tu parles pas de Giants Patriots et de Cincinnati Pittsburgh, des matchs très très offensifs, haut en couleur. On a parlé que de Green Bay Aptin. C'est quoi ce bordel? On va reprendre l'émission. Toi et moi, c'est quoi ce bordel? On fait 20 minutes sur Green Bay et sur San Francisco.
C'est lui l'autre principal. S'il veut qu'on parle 45 minutes de Packers, on parle 45 minutes des Packers.
Très bien. On va refaire la hiérarchie des quatre.
Je fais pas la preview de tous les matchs.
Non, mais je sais.
On va pas faire la preview de tous les matchs. Mais
quand c'est différent. Qu'on veut parler des Panthers, non, on parle pas des Panthers. Miami et après. Tu sais tout. Sanders, tu laisses où il est. Miami, Tampa Bay.
Sanders, c'est de la merde. On le jette.
Et en tout cas, si vous aimez le football offensif, regardez ce Cincinnati Pittsburgh et ce Patriots Giants ça va être de la folie.
En couleur,
ça va être de la folie. Je vous le dis.
Bah, David, toi, c'est du bon taf. Hein.
Ouais. C'est pour ça, ça va être de la folie, je vous le dis. Je vous le dis, ça va être la...
Ça, c'est libération d'Italien et tout, il faut en parler. Enfin, moi, je suis pas d'accord.
Est-ce que De Vito est au-dessus de Daniel Jones? On va voir ça d'ici la fin.
On en reparlera la semaine prochaine.
Déjà. Il est meilleur que Piquet déjà.
Voilà, c'est ça.
Et que Zach Wilson.
Pas possible. Bon, messieurs, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci à toi.
Très, très bon match, très bon Thanksgiving à tous. Et on vous dit à dimanche pour le warm-up.
Ciao, ciao.
Bye bye.
Ciao, ciao.